Radio Grand Ciel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blin. Je reçois aujourd'hui Serge Simon, un photographe qui raconte le monde à travers ses photographies. L'an passé, il a sorti un ouvrage, Rencontre, où il raconte le monde à travers ses photographies. Et du 21 mai au 1er juin, il présentera 80 photographies extraites de cet ouvrage en noir et blanc argenti. Un choix technique qui exige une très belle technique. Et cela sera présenté à Mortagne-au-Perche. Serge Simon, bonjour.
Bonjour.
Les percherons vous connaissent bien car vous avez choisi d'habiter à Belleforêt en Perche. Eh bien, racontez-nous un peu Belleforêt en Perche.
Belleforêt en Perche, c'était Serigny avant. Ils ont regroupé les communes depuis quelques années. Je suis venu ici un petit peu par hasard. J'avais fait des photos à la ferme des Gaillons, qui est à la sortie de Mortagne, il y a quelques années. Il y avait une ferme pour enfants. Et j'avais à faire un ouvrage pour les éditions Milan. Et là, il y avait des enfants qui pouvaient me permettre de faire des photos. J'avais passé quelques jours là. Et j'avais trouvé l'endroit sympathique et pas loin de Paris.
Vous habitiez Paris à ce moment-là ?
Ah oui, j'habitais Paris, le centre de Paris, oui, des années 70 jusqu'à 93, parce que je suis dans le Perche depuis 93. Et on a cherché en Sologne, parce que je trouvais la région belle, on ne trouvait pas, c'était cher. On est venu dans le Perche et en un seul week-end, j'ai trouvé la maison que j'habite et j'en ai visité qu'une.
Ah.
Et nous y sommes restés.
Donc là, vous êtes tout près de...
On est à 2 km 500 du centre de Belém et on a les chevreuils sur la terrasse, c'est extraordinaire.
C'est merveilleux. Alors, venons-en à votre carrière. Vous avez commencé, je crois, par le dessin industriel.
J'ai fait des études de dessin industriel parce qu'à l'époque, il y avait une très grosse demande.
Oui.
Puis j'aimais bien la technique.
Mm-hmm.
Mais la photographie, j'avais dérobé à mon père, qui avait un appareil photo très simple, un petit appareil photo en plastique sur lequel il pouvait faire 8 photos. Et j'étais allé me promener en forêt, et sans m'en rendre compte, j'avais fait les 8 photos. Et quand il a fait développer que ce n'était pas des photos à lui, il a bondi. Mais c'était déjà, j'avais 15-16 ans, je trouvais que de faire des images, ça avait quelque chose de magique. Mmh. Et j'avais l'impression qu'en photographiant les gens, je les immortalisais. Ils ne vieillissaient plus, ce qui est tout à fait vrai.
Oui.
Et dès que j'ai eu fini mes études de dessin industriel, mes premiers salaires ont été pour m'acheter un appareil photo à peu près convenable, qui coûtait à l'époque plus d'un mois de salaire.
Et qu'aviez-vous choisi comme appareil ?
Il existait à l'époque une marque qui s'appelait Practica, qui faisait des réflexes qui étaient les moins chers, mais il n'y avait pas de cellules, c'était pas les appareils d'aujourd'hui, c'était entièrement manuel. Mais ça me permettait de faire quand même des bonnes photos. Donc, à partir de là, je pouvais espérer quand même faire des clichés intéressants.
Et est-ce que vous êtes spécialisé à ce moment-là ?
Alors, j'ai commencé par photographier les gens, parce que les gens me passionnaient.
Mm-hmm.
J'ai passé une année à Dakar, faire mon service militaire en tant que sursitaire. J'ai encore refotographié les gens, c'était un rêve d'enfant. Aller au milieu de la brousse et pouvoir dormir dans les villages, c'était étonnant. Et plus tard, j'ai rencontré ma femme en plus, au Sénégal.
Très bien.
On a travaillé, on a passé notre vie ensemble à travailler.
Parce qu'elle est dans la photographie aussi.
Non. Elle avait fait des études de philo et elle avait un tout autre métier. Elle a fait comme moi. Elle a arrêté plus tard aussi. Et quand je suis rentré et j'ai travaillé dans le dessin, donc dans les années 70, 69, 70, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait Les Animaux du Monde de Frédéric Rossif.
Oui.
Et je trouvais ça très passionnant. Et là, j'ai complètement basculé. Je me suis intéressé à la photo animalière. Et surtout, il faut étudier le comportement des animaux. On ne peut pas photographier des animaux comme ça. C'est compliqué. Mais c'est vachement intéressant, par contre.
C'est sûr.
Donc, j'ai acheté du matériel pour photographier les animaux, qui est différent. Il faut des gros téléobjectifs très puissants.
Et vous avez des professeurs, un peu, gens qui vous expliquent.
La photographie, comme dit Henri Cartier-Bresson, la photographie, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend en regardant. Et il a tout à fait raison, en regardant les photos des autres.
Ouais.
Voilà. Alors, il faut faire attention, bien observer, regarder pourquoi une photo nous plaît, il y a une raison. Et puis, animalier, après, c'est quand même très compliqué parce qu'il faut étudier le comportement des animaux.
Ils bougent.
D'abord, ils bougent. Il n'y avait pas la sensibilité des films qu'on a aujourd'hui en numérique qui permettent de faire des photos à 5 heures du matin. Ouais, ouais. On n'avait pas ça. Le matériel était moins performant. Il était très lourd. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais l'intérêt de étudier le comportement des animaux, c'est quand même passionnant.
Mais le matériel est quand même lourd. Quand on lit des sons qui racontent.
Oui. Un téléobjectif de 600 mm, ça fait 5 kilos.
C'est ça.
Avec un appareil qui en fait 2, ça en fait 7.
Voilà.
Et le matériel que j'utilise aujourd'hui pour mes voyages et cette photo humaniste, les deux appareils photo, leurs objectifs, ça fait même pas 2 kilos.
Oui, c'est
donc j'ai quand même.
Oui, c'est moins lourd. C'est moins lourd.
Nettement.
Donc vous commencez à faire des photos d'animaux.
Oui.
Par exemple.
Dans les années 70, eh bien, je suis parti. On s'est marié. Je me suis marié en rentrant de Dakar. Quand je suis rentré de Dakar, et ma femme aussi, parce qu'elle a fait une partie de ses études là-bas. On est parti en Scandinavie. Pendant 3 mois, on s'est pris 3 mois de congé sans solde. À l'époque, on pouvait le faire. Les entreprises nous laissaient partir parce que, comme ils étaient en manque de personnel, ils vous reprenaient automatiquement au retour. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Et on avait fait un voyage de 3 mois en Scandinavie. Au Danemark, on a rencontré deux garçons qui parlaient français. On a pris contact, on a discuté. Et en réalité, c'était le rédacteur en chef d'un magazine. Et le vétérinaire qui faisait une rubrique vétérinaire. Et on leur a raconté notre voyage de 3 mois. Ah, mais c'est super, Blachouf, il faut venir nous voir. On n'avait pas fait ce voyage dans le but de...
Oui, mais bon, c'était une bonne occasion.
Ah ben, une tellement bonne occasion, c'est qu'ils nous ont publié 2 reportages qui représentaient une somme d'argent bien supérieure à ce qu'on avait dépensé en 3 mois.
Ah, ça c'était bien.
Alors là, je dis à ma femme, c'est quand même sympa, parce que pour gagner cette somme, il fallait que je travaille 2 ou 3 mois de salaire.
Mais votre femme vous aidait pour la photo
Eh ben c'est pas ça, c'est que le fait de publier, ça vous, à l'époque, était très bien payé. Donc après, quand on partait en voyage, on est parti en Afrique, et j'ai fait beaucoup de photos aux États-Unis aussi après.
Et vous avez quitté votre travail à ce moment-là?
Après. Au début, on est quand même parti pour produire. C'est-à-dire, on allait voir ce magazine qui s'appelait La Vie des Bêtes à l'époque, qui n'existe plus. Et on lui disait, bon, on part au Kenya, est-ce que... Ah ben oui, ben faites-nous un petit sujet sur les éléphants. Et en réalité, en un mois, non seulement on amortissait le voyage, mais on faisait un énorme bénéfice. Alors au bout de quelques années, je crois que moi j'ai arrêté en 76, et ben avec ma femme, on s'est mis d'accord, on a cessé notre travail, on a mis de l'argent de côté, et on a décidé de prendre le risque de vivre de nos photographies.
Oui.
On a bien fait,
parce
qu'on l'a fait toute notre vie.
En plus, c'est ce que vous aimiez, donc c'est ça.
J'ai jamais eu l'impression de travailler.
C'est
quand même bien.
C'est bien, exactement. Oui.
Donc après, on a fait des voyages avec des commandes et on a fait des productions plus intéressantes.
Alors vous avez pu travailler pour des magazines
Énormément, oui. On a travaillé pour Figaro Magazine. Ma femme a eu une rubrique dans Pèlerin Magazine pendant 20 ans. Sur la nature, tous les 15 jours. Donc, c'est un
elle photographiait aussi.
Peu. Elle prenait ses notes et écrire, c'est compliqué. C'est un énorme travail.
Donc vous vous complétiez bien finalement. Vous photographiez, elle écrivait.
Et on faisait les voyages ensemble d'une façon générale.
Donc ce qui était bien agréable.
Parfaitement, oui. On a même fait beaucoup d'ouvrages. On a fait beaucoup d'ouvrages pour les enfants.
Ah oui.
Chez Milan, on a travaillé beaucoup pour les revues aussi du groupe Bayard. Astrapi, Image Doc et tous ces gens-là. On a fait beaucoup de reportages pour les revues pour enfants, parce que c'était aussi le début, les années 70-80, on parlait un peu de protection de la nature, d'environnement. Et dans tous les magazines, il y avait des sujets animaliers, les magazines pour enfants, tous les mois, il y avait un sujet animalier. Et on était très peu. Contrairement aujourd'hui, on n'était pas 10 photographes professionnels. Les amateurs diffusaient un petit peu leurs images, mais c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait confier ses diapositives originales.
C'est ça.
Alors l'amateur qui avait...
Il n'a pas envie.
Dans le domaine animalier, qui avait passé des journées entières pour photographier un cerf au moment du brame et tout, n'avait pas envie de voir partir sa diapositive et peut-être ne pas la voir. Si, parce qu'en réalité, il y avait des garanties, il n'y avait aucun problème.
Alors les animaux que vous avez photographiés à ce moment-là, c'était des gros animaux?
Ah ben ça pouvait aller de... j'ai photographié des éléphants au Kenya, le guépard, la faune africaine est vachement riche.
Ah oui.
Et là, à l'extrême, on peut presque faire des photos sans avoir aucune connaissance du comportement, parce que on voit les animaux partout. Alors si on s'intéresse au comportement, c'est encore mieux. Mais je veux dire, ça ne demande pas... c'est plus facile.
Est-ce que vous êtes vraiment intéressé aux animaux en même temps?
Oui, parce que c'est quand même... Puis il y a des... Si on connaît bien le comportement, il y a des scènes qu'on va photographier qui sont très importantes. Et si on les photo, si on ne connaît pas le comportement, on ne va pas les photographier. Oh, ben ça, c'est pas intéressant.
Oui, alors qu'en réalité, j'en reviens à Tesson. Ils attendent
oh là là.
L'animal.
Ah bah oui. Non. Puis alors le sujet, je connais le photographe Vincent Mounier qui était avec lui.
Oui.
C'est des journées entières, oui. Des semaines.
Oui, oui.
Et en plus, pour apercevoir la Panthère des Neiges, oui, parce que le mimétisme est tel qu'il faut avoir l'œil quand même.
Oui, oui. Alors, mais il y a quand même une symbiose avec la nature, et ça, c'est très
complètement
important.
Mais il faut quand même déjà être très passionné.
Ah oui.
Donc, Tesson qui l'accompagnait n'avait peut-être pas, je veux dire, avait pas la même démarche que Vincent Mounier, qui lui fait ça depuis des années et des années.
Oui.
Et pour lui, rester 3 jours sans bouger, c'est presque normal.
Mais dans le livre, c'est intéressant de voir comment lui-même a attendu.
Oui, parce qu'il est pris par le jeu de.
Voilà,
eh oui.
Exactement. Alors, est-ce que vous avez eu ces attentes-là?
Ma question. Très souvent.
À propos de quels animaux?
Oh là là, par exemple, je sais pas, j'ai fait des photos de renardeaux. Déjà, il faut trouver le terrier. Il faut bien connaître le comportement, savoir à quelle époque. Les jeunes vont commencer à sortir des tariers,
oui.
Et vous pouvez attendre pendant des heures. Le pire, au niveau attente, j'ai photographié le circaète Jean Leblanc qu'on trouve dans la partie sud de la France et qui se nourrit essentiellement de reptiles.
Alors, redites pour nos auditeurs le nom de cet animal.
Circaète Jean Leblanc.
Voilà.
C'est un petit aigle qui fait 1m50, c'est de la taille d'une buse, un peu plus grand qu'une buse. Le nid est très haut.
Ah
donc,
oui.
Il était à au moins une quinzaine de mètres. Donc, j'ai trouvé un arbre en face. Là, je construis une cachette. Je monte, je me mets dans la cachette le matin et je n'en sors que le soir.
Et oui,
alors,
il faut l'attendre.
Pour pas dormir. Et il ne nourrit que 2 fois dans la journée.
Ah oui.
Non, les heures sont très longues.
Oui, mais ça, c'est palpitant. Hein.
C'est palpitant. Des fois, c'est un peu long quand même.
Ah oui. Et parce qu'il faut être toujours en éveil.
Ah ben oui. Parce que si l'animal vient nourrir, il faut quand même avoir l'œil et ne pas faire de bruit.
Bien sûr.
Parce que j'étais, là, quand j'ai fait ces photos-là, je devais être à une dizaine de mètres.
Et est-ce que lui-même vous avait repéré?
Je pense.
Parce qu'ils ont vraiment un sens.
Oui, et puis même à travers la toile, je devais bouger, ça peut-être fait. Mais dans la mesure où il n'y avait pas de problème, ça se passait bien. Le pire, où on a attendu le plus pour rien, c'est nous avons passé 3 hivers en Pologne pour photographier les loups.
Ah oui.
Et on a passé 3 fois 1 mois, on a vu que 2 fois les loups, et on a à peine pu faire de photos. Et là, je peux vous dire que les nuits sont longues.
Ah oui. Là, vous étiez tous les deux avec votre épouse à attendre.
Oui. Ben oui, parce qu'on avait fait la connaissance de chasseurs polonais à la frontière russe qui nous prêtaient leur mirador où eux le chassaient, le loup.
Ah oui.
Ils le chassaient parce qu'une peau de loup était vendue à un tel prix que ça leur payait pratiquement 6 mois de salaire.
Eh oui, bien sûr.
Donc ils nous prêtaient leur mirador en faisant attention. Oh là là, c'était très compliqué, pas se faire remarquer. Voilà. Et les nuits. Et je me rappelle, ce chasseur nous avait dit, il faut être tellement patient qu'il faudrait que la mousse arrive à te pousser sur les épaules.
Une belle image, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience.
Oh,
c'est un peu comme celui qui va tuer un animal.
Mais à l'extrême, la photographie animalière, c'est de la chasse.
Oui,
sauf qu'il n'y a pas de...
Voilà,
le trophée et l'image, il n'y a pas de mort.
Si, les trophées, ce sont les images, les
exactement,
photos.
Exactement, tout à fait.
C'est absolument la même chose. Alors, vous êtes passionné au départ par les animaux.
Ben oui.
Voilà. Et c'est à partir de quel moment vous allez plutôt préférer les hommes?
Ben, je sais
parce que j'ai parcouru votre livre. Alors, chers auditeurs, un très beau livre que je vous conseille d'acheter. Ça s'appelle Rencontre, photographie humaniste par Serge Simon. Et ça a été fait aux éditions Concept Images. Et j'ai trouvé que dans ce livre, eh bien, on voyait beaucoup de photos d'individus. Individus de tous les pays, en quelque sorte.
Tous les pays, c'est beaucoup, mais d'un certain nombre.
D'un certain nombre.
Mais j'étais un petit peu, la photo animalière m'a un peu frustré, parce que j'allais au Kenya, par exemple, pour photographier les éléphants, les lions, ou aux États-Unis pour faire des sujets sur les parcs. Mais je passais à côté des hommes.
Et oui, c'est ça.
Et on peut pas faire 2 choses en même temps. Après, professionnellement, je partais pour faire un reportage.
Et puis, c'était pas les mêmes acheteurs aussi que vous aviez.
Oui, puis on est dans le sujet. Et si on en sort, on n'en fait aucun de bien.
Voilà.
Donc, je m'étais dit que quand j'aurai le temps, à la retraite, je ferai enfin les photos que je rêvais faire. J'avais commencé jeune et que j'avais pas continué. Et c'est ce que j'ai fait plus tard.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Serge Simon qui présente des photographies humanistes à Mortagne-au-Perche, à la salle des fêtes de Mortagne-au-Perche, du 21 mai au 1er juin. Donc Serge Simon, 21 mai au 1er juin, hôtel de ville de Mortagne-au-Perche, la salle des fêtes. Alors Serge Simon, vous avez évoqué dans la première partie de notre entretien les animaux que vous avez photographiés. Ce livre fait plutôt allusion à des photographies humanistes. Alors, vous avez choisi le terme humaniste. Pourquoi ?
Eh bien, la définition de la photographie humaniste est très simple. C'est l'intérêt que porte le photographe à l'être humain dans ses activités quotidiennes. C'est-à-dire, je fais une photo de vous devant votre micro, oui. C'est une photo humaniste. Voilà. C'est une partie de votre activité. Alors, à partir de là... Eh bien, on peut les faire absolument n'importe où. Douaneau a fait photographie humaniste bien connue. Oui. Lui a fait l'essentiel de ses photos à Paris, parce qu'il aimait bien Paris. Il n'avait peut-être pas la possibilité de se déplacer.
Oui, oui.
Moi, je préfère aller dans des pays où... J'ai toujours été passionné par les peuples qui ont une vie différente de la
nôtre. Puis vous aimez bien l'étranger, parce que dans la première partie de notre entretien, vous avez expliqué que vous aimiez aller voir les animaux... Qui était...
Ben oui, parce que l'Afrique, c'est quand même fabuleux.
Voilà.
C'est extraordinaire de voir des animaux toute la journée, et puis des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Alors, pour les gens, pour les hommes...
Ben c'est un peu pareil.
Et alors, est-ce que vous avez votre procédé de photographie, est-ce que c'est toujours le même ?
Ah, c'est quand même un petit peu... D'abord, le matériel a changé.
Voilà.
Parce que...
Alors, parlez-nous du matériel.
Alors, le matériel, je cherche surtout à avoir le contact avec les gens. Et faire le portrait de quelqu'un à 10 mètres avec un tel objectif, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, je travaille avec des objectifs très courts, hein, 35 ou 50 mm, c'est presque un grand angle. Disons que pour faire un portrait au 35, il faut que je sois à 1 m50. Donc, je ne peux pas voler la photo. Je suis obligé... d'avoir l'accord de la personne. Et ça m'oblige à rentrer en contact avec elle.
Ce qui est beaucoup plus intéressant.
Ben oui, parce qu'il y a une histoire à raconter. Où il n'y a pas d'histoire. Des fois, le langage, ça m'est combien de fois arrivé de photographier des gens, on ne peut pas se comprendre. Mais c'est des regards, c'est des sourires. Les yeux sont très bavards.
Bien sûr.
Et il y a une complicité extraordinaire, des fois, avec des gens avec qui on n'a pas dit un mot. C'est absolument incroyable. Et ça, c'est des moments de bonheur.
Alors, vous allez être, vous restez fidèle à l'argentique, j'imagine.
Oui, parce qu'en réalité, au cours de ces voyages, depuis que je suis en retraite, je fais peu de photos. J'adore le noir et blanc. Et puis, faire les tirages, à partir des photos qu'on a prises, des fois 15 jours, 3 semaines ou un mois avant, c'est aussi encore une autre façon de se raconter le voyage. Parce que des fois, je sors le négatif, quand je le développe, ça fait 3 semaines que j'ai fait la photo, je me rappelle plus. Exactement, des détails. Oui. Et d'un seul coup, je dis, oh là là, mais elle est bonne, celle-là. Oh, je me rappelais plus de celle-là. Parce que je peux pas me rappeler.
Ouais.
Quand on part 3 semaines ou 1 mois, on peut pas se rappeler de tout. Il s'est passé plein de choses. On a rencontré plein de gens différents. Et quand on fait le tirage sous l'agrandisseur, qui est entièrement manuel, mais on masque la photo, on fait ressortir les parties les plus claires, on essaie d'atténuer les zones foncées, on ressort toutes les zones de lumière. C'est compliqué.
Bien sûr.
Et c'est, quand on le fait pour la première fois, c'est passionnant. Moi, j'adore.
Donc, vous avez un studio très bien équipé.
Oh, un studio de labo argentique. C'est 3 cuvettes, un évier, un robinet d'eau chaude et d'eau froide et une table avec l'agrandisseur. Combien de gens ont fait ça dans leur salle de bain quand ils faisaient ou dans les clubs photos, il y avait beaucoup. Non, c'est très simple. C'est plus de temps que de matériel.
Alors, donc, vous allez voyager avec une idée
ou... Oui, c'est-à-dire... Quand je partais, par exemple, un de mes voyages au Mali, j'avais un ami malien et il devait m'emmener dans le village où il est né, qui était à la frontière mauritanienne. J'ai fait 3 fois le voyage avant de pouvoir aller dans ce village. La première fois, le train est tombé en panne. La deuxième fois, il y avait des conflits avec les Mauritaniens, comme c'est à cheval sur la frontière, ils se volaient le bétail, c'était dangereux. J'ai dû faire 3 voyages pour aller dans ce village. Mais d'abord, il y a 20 heures de camion pour s'y rendre.
Ah oui.
On finit avec des ânes, parce qu'il n'y a pas de route. Et j'arrive dans le village, les enfants se sauvent. Alors là, j'ai pas compris. C'était, pour les enfants de moins de 12 ans, c'était la première fois qu'ils voyaient un Européen. Et ça, c'est des moments fabuleux. Alors on s'assoit, les gens viennent, les adultes viennent vous dire bonjour, tout le monde vient vous serrer la main, et on aperçoit derrière les cases, ce sont les filles qui commencent, qui sont beaucoup plus courageuses que les garçons, qui regardent en biais, qui viennent, et elles approchent, elles viennent, et le pire, elles vous tirent les poils, parce que les noirs n'ont pratiquement pas de poils. Mmh. Elles pensent que c'est une déco, elles s'amusent à vous tirer les cheveux, tirer les poils. Et au bout d'une demi-heure, vous avez les enfants sur le dos, sur les épaules, c'est fini. Il suffit de chahuter avec eux, et tout s'arrange. Mais pour eux, vous êtes une des...
Mais
une...
pour communiquer, c'était compliqué.
Ah ben là, alors tous les anciens colonies françaises en Afrique parlent le français.
Oui.
C'est leur langue principale. Mmh. Donc, il y avait une école dans ce petit village, une toute petite école, mais il y en avait une.
Français.
Donc, pratiquement, tout le monde parle le français. Alors, c'est un énorme avantage.
Bien sûr.
C'est qu'on a quand même en point commun la langue. Mm. Et là, c'est très agréable.
Alors, vous avez commencé par quel pays ?
Je suis allé... La première fois, le premier voyage que j'ai fait, quand j'ai commencé, c'est la Mongolie.
Mongolie.
Oui. Alors ça, c'est pareil, je connaissais pas du tout cette région du monde, et j'étais un peu fasciné par ces nomades. Mm. Parce que... La moitié de la population est nomade. C'est peut-être le seul pays au monde où les gens vivent avec leurs tentes sur le dos.
Oui.
C'est quand même compliqué. Hein. C'est un pays qui fait 3 fois la France pour 2 800 000 habitants et la moitié sont nomades.
Ouais.
Alors quand on passe 15 jours ou 3 semaines avec eux, c'est très agréable de dormir sur l'ailleurs. Mais eux, ils passent leur vie.
Mm.
L'hiver, il fait moins 40.
Ouais. Vous étiez toujours en été.
Bah oui, je suis allé juillet et puis je suis allé 2 fois, septembre, fin août, début septembre.
Pour les distances
Ah c'est énorme. Il faut prendre impérativement un chauffeur et un interprète,
ouais.
Parce que même le chauffeur se perd. Il n'y a pas de panneau,
il n'y a pratiquement
pas de route, c'est que des chemins ou des pistes. Et il s'arrête souvent, s'il y a un campement de nomades, demander c'est pas cette vallée où tu vois la montagne là-bas, tu tournes à gauche après la montagne.
Mmh. Alors, et quand vous arrivez au Mali, comment êtes-vous accueilli ?
Eh bien là, j'avais un contact sur place, un ami malien.
Ça, c'est quand même bien.
Oui. À chaque fois, j'ai un contact, ou si je n'ai pas la possibilité de connaître quelqu'un, je vais essayer d'avoir, je prends un interprète.
Ah oui.
Oui, parce que c'est indispensable. Sinon, on passe à côté de beaucoup de choses.
Oui, voilà.
Les Mongols, si vous ne pouvez pas parler avec eux, c'est quand même dommage.
Oui.
Parce qu'il n'y a rien à voir en Mongolie, à part les paysages. Mmh. Et si on ne s'intéresse pas aux gens,
là, c'est dur.
C'est dur, parce qu'il n'y a rien.
Oui.
Donc
vous commencez par ce pays, et pourquoi vous aviez choisi ?
Parce que je connaissais pas du tout l'Asie, et puis j'ai eu l'opportunité, on était un petit groupe de 2 ou 3 photographes qui voulaient faire un voyage comme ça, on l'a fait ensemble, on était 2.
Voilà.
2 photographes là.
Avec vos épouses ?
Non, ma femme m'a suivi pendant un certain nombre d'années pour faire ses articles.
Oui.
Et elle en a un petit peu marre de regarder faire des photos.
Voilà. Donc là, vous êtes allé tout seul. Et alors, vos photos, vous saviez à qui les vendre ?
Je ne les vends pas du tout, ces photos-là.
Vous faites pour des livres ?
Les expositions.
Et les expositions.
Surtout beaucoup. Ça me permet aussi de rencontrer les gens que je n'ai pas rencontrés toute ma vie par le biais des magazines. Parce que les seules personnes qu'on rencontre quand on fait un reportage pour un magazine, c'est le rédacteur en chef, le directeur artistique, mais les lecteurs, on ne les voit jamais. Si, des fois, on reçoit une lettre.
Vous faites des expositions à Paris ?
Non, j'ai fait beaucoup d'expositions dans la région. Le marché d'art de la Perrière a été une de mes premières. C'était vachement sympathique. J'ai fait des expositions communes. Alors là, j'en ai fait un petit peu, même à l'étranger. J'ai fait des expositions au Festival de Barreau, j'en ai fait le Festival de Belém. J'ai dû faire, depuis une quinzaine d'années, 80 expositions.
À peu près, quand même.
Oui.
Donc, chaque année, vous en faites au moins 3
ou
4.
Puis je suis... c'était pas le but au départ, parce que c'était des photos pour me faire plaisir.
Oui.
Et en réalité, je me suis pris au jeu et je travaille presque plus que quand je travaillais.
Ah oui. Et ce sont des grandes photos.
C'est des photos qui sont tirées, qui font à peu près 30 cm par 40.
Que vous avez encadré.
Et qu'ils sont montés avec un passe-partout, un cadre. Je fais ça. C'est un passe-temps extraordinaire.
Ah oui. Donc, alors, vous avez parlé déjà de la Mongolie. Alors, vous êtes allé aussi en Inde.
Oui, je suis allé en Inde parce que c'est aussi un pays assez fascinant, c'est qu'on peut, qui techniquement aujourd'hui est à la pointe du progrès, et on peut trouver des comportements millénaires, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est quand même un pays avec une diversité.
Et vous étiez plus dans les campagnes?
Oui, j'ai préféré. Oui, ouais, j'ai fait les trois états en trois voyages, le Rajasthan, que j'ai trouvé très intéressant, le Kerala, qui est dans le sud, et l'Uttar Pradesh en 2019, parce que je voulais aller à Benares, pour voir Benares, c'est quand même assez dur.
Et quelles ont été vos impressions en arrivant à Benares?
Oh là là, c'est incroyable.
La pauvreté.
Ah oui, mais ça c'est dans toute l'Inde. Dans les grandes villes, la campagne on le sent pas très bien, au Rajasthan et tout. Même dans les campagnes, les gens, ça va, c'est les villes, les gens dorment. J'ai atterri à Delhi à 4h du matin, les trottoirs sont couverts de gens qui dorment.
Mais c'est ça,
parce que il y a quand même 1 200 000 ou 300 000 d'habitants.
Alors, oui, il paraît que même les gens meurent sur le trottoir.
Non, c'est leur logement.
C'est ça, oui.
Ah oui, c'est assez surprenant. Que ce pays-là, techniquement, est très avancé, parce qu'on peut, côtoyer les deux mondes.
Et alors là, vous avez été attiré plutôt par les femmes?
Je photographie beaucoup les femmes, parce que d'abord, j'ai une complicité avec elles que je n'ai pas avec les hommes, ou moins. Les femmes aiment bien être photographiées.
Oui,
parce que quand
vrai.
On demande à une femme pour faire une photo, c'est que souvent on la trouve jolie, ou je m'intéresse à ce qu'elle fait. Parce que ça peut être, j'aime bien faire des photos des gens qui sont en train de fabriquer ou de faire quelque chose, ou de peindre comme...
Alors par exemple, à Benares, vous avez photographié des femmes qui travaillaient, qui se
non,
reposaient.
Non, j'ai photographié en train de prier dans le Gange,
qui
est pas très...
Propre.
Moi je m'y baignerais pas. Parce que les corps qui sont brûlés, tout un hindouiste rêve d'être incinéré à Benares, ça lui permet de gagner le nirvana sans escale. Mais le bois coûte très cher. Et il y a des corps. Les gens n'auront pas assez d'argent pour le brûler entièrement.
Ah, oui.
Et le reste est jeté dans le Gange.
Alors vous êtes allé également en Birmanie.
Ah, ça c'est un pays rêvé.
Alors ça, je crois que pour vous, c'est le pays qui vous a le plus fasciné, je dirais.
Oui, surtout les gens. Et les femmes sont adorables. Parce que vous ne pouvez pas croiser le regard d'une femme, que ce soit à Rangoon, la capitale économique, ou en pleine forêt. D'abord, vous avez droit à un superbe sourire et au bonjour traditionnel, Makalaba. C'est inconcevable qu'une femme croise votre regard sans vous dire bonjour et vous sourire. C'est quand même surprenant. Et c'est aussi très agréable.
Oui.
Ah, c'est incroyable. Alors, en plus, ce pays qui a longtemps été fermé au tourisme parce qu'il y avait une dictature militaire, est ouvert depuis une dizaine d'années. Et on va retrouver, il a été un petit peu bloqué.
Bien sûr.
Et on va retrouver des choses passionnantes. Alors, en plus, la Birmanie est le pays au monde où il y a la plus grande diversité ethnique. Il y a plus de 130 ethnies.
Ouais.
Donc, avec des choses, les femmes au long cou, par exemple. C'est unique au monde.
Mais pour comprendre...
Là, je prends une interprète. Alors, j'ai pris une birmane, où on est devenus amis. Elle vient chez moi, elle est venue chez moi en France deux fois, déjà.
Ah oui.
Elle parle le français très couramment. Et elle organise des voyages sur commande pour les gens qui veulent partir à deux ou trois ou quatre. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'elle parle le français parfaitement. Elle parle plusieurs dialectes.
Elle a pu faire des voyages.
Elle est très cultivée, donc elle connaît pratiquement toutes les régions de son pays, c'est incroyable.
Oui, parce que quand on va dans un pays comme ça, il faut absolument avoir quelqu'un.
Puis avec
parce que
elle,
sinon...
On rentre dans les maisons.
Mais c'est ça.
Elle va voir les gens, les maisons en bambou. C'est incroyable. Alors, donc c'est vachement intéressant. Les femmes que j'ai photographiées qui sont marquées d'une toile d'araignée sur le visage.
Eh bien, écoutez, un grand merci Serge Simon. Nous vous retrouverons, je l'espère, tous du 21 mai au 1er juin à Mortagne-au-Perche. Et aussi, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Merci Serge Simon.
Merci, au revoir.